son retour, Jésus fut reçu par la foule car tous l'attendaient. Et voici qu'il vint un homme du nom de Jaïrus, qui était chef de la synagogue. Et se jetant à ses pieds, il suppliait Jésus d'entrer dans sa maison, car il y avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans en tirer aucun avantage. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie ». Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus ressentit aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse et tu te dis « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Il parlait encore lorsque survinrent de chez Jaïrus des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner encore le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit à Jaïrus « Sois sans crainte, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison de Jaïrus, où Jésus vit qu'il y avait du tumulte, et des gens qui pleuraient et poussaient des cris retentissants. Il entra et leur dit « Pourquoi ce tumulte et ces pleurs ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquaient de lui. Alors il les fit tous sortir, prit avec lui le père et la mère de l'enfant, de même que ceux qui l'avaient accompagné, et entra là où se trouvait l'enfant. Il saisit l'enfant par la main et lui dit « Talitha kumi », ce qui se traduit « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Ils en furent hors d'eux-mêmes, frappés d'un grand étonnement. Jésus leur fit de vives recommandations, afin que personne ne le sache, et il leur dit de donner à manger à la jeune fille.
Quelle journée! Deux cas désespérés. 12 ans, elle avait essayé de se faire soigner. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Et cela ne faisait que s'empirer. Un cas désespéré. Le deuxième cas devient désespéré parce que la petite fille meurt. Et Jésus est toujours en chemin. Elle est morte. Ça se lamente, ça crie. Et puis quand Jésus dit qu'elle, pour lui, elle ne fait que dormir, ça se moque. La scène est assez incroyable. À tous égards, et je crois que vous allez voir. Mais nous allons essayer de comprendre 4 choses. Et la première chose, c'est que pour vous, vous devez saisir que le Seigneur Jésus est le Seigneur du temps. Luc nous dit que Jaïrus avait une fille d'environ 12 ans. Luc nous dit, Marc aussi, que, enfin, les deux disent les deux choses, qu'il y avait une femme qui avait une perte de sang, une hémorragie, pendant 12 ans. Pourquoi ce détail? Pourquoi est-il nécessaire de préciser que le laps de temps de la vie de la petite fille, c'est le laps de temps de la maladie de la femme. Alors, dites-moi vous-même, est-ce que 12 ans, c'est un moment long, très long, ou court, très court? La famille de Jairus aurait dit, c'est un moment très très court pour qu'une petite fille vive sur cette terre et puis s'en aille. Très court, 12 ans. La femme aurait dit, c'est très 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 long de saigner constamment, de souffrir constamment. Le même laps de temps. Pour l'une, ça s'en va et on ne peut pas la retrouver. Pour l'autre, ça se termine jamais et ça fait souffrir. Tout tourne au sujet du temps dans cette histoire. Jairus arrive, il est le chef du synagogue. Il est comme le maire de la ville pour l'époque. Mais il se jette aux pieds de Jésus et il l'importune. Il le prie, il le supplie, humilié devant lui, parce qu'il dit, il n'a qu'une fille. Vous avez remarqué dans le texte, une fille unique. Et elle est en train de mourir à l'instant. Je ne sais pas si vous avez vu quelqu'un mourir. Moi, j'ai vu quelqu'un mourir. Et en fait, quand le moment arrive, souvent on le sait. On sait que c'est les derniers instants. Jairus ne laisse venir personne d'autre. Il vient lui-même. Il se hâte. Et Jésus accepte de venir avec lui. Il a la foi que si Jésus met la main sur cette fille, elle peut être guérie de cette maladie. La foule est là, les disciples sont là. À un moment donné, Pierre dit, mais tout le monde te presse, Seigneur. Donc il y a une foule. Et peut-être à cause du personnage qui demande de l'aide. Mais Jésus a pratiquement toujours une foule autour de lui à cette époque. On se presse, on se hâte. Jairus a le cœur qui bat très vite. Est-ce qu'on va arriver à temps? Et puis, à l'insu de tout le monde, il y a une autre personne dans cette foule qui est dans une crise. Et elle s'était dit, si seulement je peux toucher son vêtement, je serai guéri. Elle vient, elle le touche, et Jésus sent qu'une puissance sort de lui. Et il arrête tout. Il arrête la foule. Il arrête le papa paniqué et il s'occupe de la femme. Une pause que Jairus, ça le fait bondir au-dedans. Vous savez pourquoi? Quand les serviteurs arrivent, vous l'avez lu avec moi, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, elle est morte. Arrêtez d'importuner le maître. Pourquoi est-ce que tu dis ça si Jairus est calmement en train d'attendre? Non, Jairus est en train de dire, « Maître, maître !» Jésus s'arrête, il parle avec la femme, Jairus est là, « Maître, maître !» Dépêchons-nous. C'est ça qui est en train d'arriver. Et comme Jésus prend le temps pour la femme, le temps pour la fille s'épuise. Il n'y a plus de temps pour elle. Le temps de sa vie s'est écoulé comme l'eau qui s'est versée par terre et on ne peut plus la récupérer. C'est pas la peine que le maître vienne. Elle est décédée. Le temps qui était tellement court, les 12 ans, c'est fini. Sauf pour Jésus. Le temps qui est parti pour jamais revenir n'est pas parti pour jamais revenir. Il est le maître du temps. C'est pour cela qu'il est complètement calme. en arrêtant à un moment où on n'arrête jamais. C'est pour ça qu'il peut aimer la femme individuellement qui a besoin de lui, de sa parole de rassurance, alors qu'il sait bien que le temps s'écoule pour la fille. Il est maître du temps. Il arrive à la maison et nous allons voir que, comment il guérit la fille tout à l'heure. Mais le temps qui s'était épuisé, il la reprend et il la longe. Elle va vivre des années et des années et des années et des années d'adulte. Parce qu'il est le maître du temps. Vous avez remarqué que Jésus, dans le cas de la fille, lui récupère le temps et la restaure et l'allonge. Mais pour la femme, il coupe à court le temps de sa souffrance. Il l'arrête à 12 ans, alors que pour la fille, il la restaure de 12 ans et l'amène plus loin dans le temps. Pour une personne, il dit au temps, arrête-toi ici. Pour l'autre, il dit, recommence là. Et c'est important pour nous de savoir, parce que parfois nous nous trouvons, n'est-ce pas, dans des situations où nous avons envie de dire, mais j'ai perdu, c'est parti, le temps est fini pour cela. Mais quand il s'agit du salut et de tout ce qui concerne le salut, la sanctification, la restauration de ce que nous aurions pu être, nous aurions dû être, non, 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 non. Le Seigneur n'est jamais trop tard. Il est toujours à temps. Ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon, c'est une leçon sur la foi. Et ça concerne donc cette dame. En raison de sa maladie, vous devez comprendre, une hémorragie, c'est une perte de sang. Une perte de sang dans l'Ancien Testament rend impur cérémonialement. Cette femme n'était pas capable de venir au culte pendant 12 ans. Elle a une perte de sang qui la rend impure. Et donc, elle ne peut pas, avec ce problème féminin dans cette culture, venir à Jésus et lui demander la guérison comme tout le monde l'a fait. C'est ça le problème. Tout le monde vient, les aveugles, fils de David, aie pitié de moi, il crie publiquement, il n'y a pas de problème si tout le monde le sait. Personne ne peut le savoir pour elle. Elle ne peut pas le dire ça. Normalement, elle ne peut même pas aller dans la foule parce que toutes les personnes qu'elle touche, elle les rend impures. Donc, elle a compris quelque chose. Parce que le texte nous dit ceci. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Donc, voilà une guérison anonyme. Une fois, dans le ministère de Jésus, une personne est guérie et Jésus n'est même pas au courant jusqu'à ce que le fait soit déjà achevé. Il doit demander qui est-ce que j'ai guéri. Une guérison anonyme. Mais Dieu l'a orchestré de cette manière pour nous enseigner quelque chose sur la foi qui est vraiment, à mon avis, capital pour chacun. Et la leçon, je peux vous faire comprendre par une petite illustration. Supposez que vous allez chez un médecin. Il est un peu spécial ce médecin. Quand vous arrivez à son cabinet, vous devez vous présenter à la secrétaire et vous devez écrire votre problème, votre maladie et cocher que vous faites la demande d'une consultation immédiate. D'accord? Alors, elle ramène la feuille chez le médecin dans la salle derrière et vous, avec les autres, vous attendez dans la salle d'attente pour voir si le médecin dit oui ou non à votre demande. Il peut guérir des gens, il est fort en traitement, mais il n'accepte pas tous les cas. Donc, vous êtes dans une situation où vous êtes candidat potentiel, vous êtes patient potentiel de médecin, mais ce n'est pas sûr. Il peut ne pas prendre ton cas. Vous savez, il y a des gens qui pensent que la foi, c'est comme ça. La foi, c'est ma manière de me présenter devant le Seigneur Jésus et de dire, Seigneur, j'ai besoin d'être sauvé. Bon, on verra s'il prend mon cas ou non. Mais cet incident nous dit que c'est exactement le contraire. Parce que le Seigneur Jésus n'a pas besoin de savoir son cas ou même son nom. Elle n'est pas une candidate potentielle de la guérison qui doit venir et puis voir si Jésus va dire oui ou non à son nom, à son cas, à cette situation, à sa personne. Elle a déjà compris que la manière, écoutez-moi bien, la manière dont Dieu a envoyé Jésus dans le monde, c'est pour être le déjà oui à tous ceux qui viennent. Pas une attente pour savoir si oui ou non. Si seulement je touche ses vêtements, je serai guéri parce que la sorte de sauveur qu'il est, c'est le déjà oui. À toi, qui que ce soit, j'ai même pas besoin de savoir qui tu es. Tellement c'est un oui, venez seulement. Vous voyez la leçon de c'est incroyable ça. C'est pour nous apprendre. C'est pour que chacun dans cette pièce aujourd'hui sache que la manière dont Dieu te donne Jésus, c'est pour qu'il soit le oui à toi, même pas besoin de savoir qui tu es. Et donc, elle vient, elle touche le Seigneur Jésus et elle est guérie. Nous allons voir tout à l'heure que Jésus ne permet pas que ça en reste là anonyme. Mais ça commence comme ça. Troisième leçon. Nous avons fini la moitié du message. Ça va? Ok. Troisième leçon. Une leçon sur la puissance du Seigneur. Là, ça va être rapide. Juste à toucher de son vêtement. 12 ans de traitement, 12 ans de tout ce que l'homme peut mettre dans le corps de cette femme ou sur le corps de cette femme pour la guérir. Toute la puissance et la sagesse humaine ne fait qu'empirer la situation et juste ça. J'aurais voulu de lui demander comment elle sentait. Oui, c'est difficile à expliquer. C'était pas comme de l'électricité, pas du tout. D'ailleurs, l'électricité, ça fait du mal. Mais c'était une puissance comme si une lumière touchait toutes les cellules de mon corps. C'est comme si la vie en liquide avait traversé toutes mes cellules. J'ai senti une puissance comme si tout était mort dans l'univers entier, sauf mon corps, qui était vivant. C'est comme si la vie elle-même embrassait mon corps et chassait la maladie. Et c'est juste parce que cela. Jésus a senti qu'une puissance est sortie de lui, parce que cette puissance est en lui. Quelle puissance magnifique! Il a celui qui s'offre à vous comme la puissance de résurrection un jour. La fille, nous sommes toujours sur la leçon de la puissance. La fille. Non pas juste un toucher, juste une parole. Petite fille, lève-toi. Une parole, et ça ramène quelqu'un d'une sphère, d'un domaine, d'un endroit, d'un monde qui est inaccessible pour nous, le monde des morts. Juste une parole. Quelqu'un a dit que au tombeau de Lazare, si Jésus n'avait pas prononcé le nom Lazare, tout le monde dans les tombeaux environnants serait sorti. Heureusement, il a précisé, parce que sa puissance est telle que un jour le Fils de l'homme dira un mot et tous les morts sortiront. Il est comme ça, sa puissance. Dernière leçon, dernier point, le message finit avec cela. Une leçon sur l'amour tendre, la tendresse aimante du Seigneur. D'abord la femme. Il la guérit sans savoir dans son humanité. Parce qu'il est vrai homme, tout en étant Dieu. Il suspend volontairement l'utilisation de sa divine connaissance afin d'être limité en connaissance humaine. Mais il est Dieu. Et Dieu n'aime pas comme les hommes. Il ne veut pas que cette femme parte avec une guérison anonyme parce que Dieu n'est jamais anonyme. Il ne guérit jamais des gens dans la foule sans savoir qui c'est. Donc, il arrête tout. Qui, c'est la question qu'il pose, qui m'a touché? C'est le qui est important pour lui. Il veut savoir où est-elle, qui est-elle, laquelle est-elle. Et le texte nous dit qu'elle est venue toute tremblante et effrayée. Qu'est-ce que cela vous dit? Ça veut dire que cette femme a eu un problème de corps, c'est fini, mais elle a un problème de cœur. Elle vient toute effrayée, toute tremblante. Quand même, nous ne sommes pas bêtes. Quelqu'un qui a une telle maladie, stigmatisée pendant 12 ans, c'est quelqu'un qui a perdu toute son estime de soi. Elle est toute peureuse. Elle a peur de la foule, elle ne veut pas se faire connaître, elle vient en cachette. Et maintenant, Jésus, il dit, plus d'anonymat entre moi et toi, moi je veux le tête-à-tête, face-à-face, cœur-à-cœur, j'ai quelque chose à te dire. Et le texte nous dit qu'elle est venue tout raconter. C'est bien comme ça, n'est-ce pas? Vous avez fait ça avec le Seigneur? Tout raconter. Tout dire. C'est incroyable pour elle de dire ce qu'elle dit devant la foule. Mais Jésus, maintenant, lui dit, « Ma fille. » Ça, c'est déjà formidable. Pourquoi est-ce qu'il l'adresse comme ça? Parce que ce n'est pas personne anonyme numéro tel qui a été guéri. Parce qu'elle a pu toucher Jésus. C'est ma fille. Il faut qu'elle sache que non seulement son corps est guéri par un toucher de puissance, mais c'est parce que le Dieu de cette puissance l'a aimé et l'a réclamé. Ma fille. Et c'est ça l'amour de Dieu pour vous et moi. C'est un amour qui vous connaît par nom et qui dit « Tu es à moi. » Il dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Qui l'a sauvée? Jésus l'a sauvée. Qu'est-ce que Jésus dit? « Ta foi t'a sauvée. » Je ne vais pas aller en détail sur ça, mais il y a une chose que cela fait. Devant tout le monde, elle est élevée. « Ta foi à sauver. Tu as une foi véritable. Je te le dis. Je reconnais cette foi. Elle est la bonne. » Ça, quel amour. Le Seigneur sait, je suis émerveillé de savoir qu'en une phrase, il sait exactement quoi lui dire. Ta foi t'a sauvé. Rassure-toi. Il dit, va en paix. Maintenant, ça, c'est pas une manière de se débarrasser de quelqu'un. Ça, c'est une sorte de bénédiction. Va en paix. C'est-à-dire, c'est pas seulement ce moment où tu as été béni par Dieu, c'est le reste de ta vie. Va le reste du temps, va en paix. Maintenant, je mets la paix entre toi et Dieu qui règne sur le reste de ta vie. Et ça, c'est le salut. Va en paix. Tu es en règle avec Dieu, toi-même, pas seulement ton corps. Dieu t'aime, il te sauve. Et la dernière chose qu'il te dit est intéressante. Il le dit à personne d'autre. Il dit, sois guéri de ton mal. Elle est déjà guérie. Pourquoi est-ce qu'il va dire ça? Quand tu as eu une maladie de 12 ans, la première chose qui arrive quand tu es guéri, c'est tu te dis, est-ce que ça va revenir? N'est-ce pas? Toujours! Il dit, sois guéri de ta maladie. En d'autres termes, ça ne va pas revenir. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Le tendre amour du Seigneur pour chacun de nous. C'est ce même amour qu'il a pour toi, pour toi, pour toi. La fille. Jésus, donc, arrive, c'est le désespoir de la mort. Quand il arrive à la maison, c'est lourd. Parce que la fille est décédée dans la demi-heure. C'est cette tristesse qui convulse. Les sanglots qu'on ne peut pas arrêter. Les gens pleurent à la maison parce que c'est une perte absolue et irrévocable. Elle est partie, elle n'avait que 12 ans. Jésus, nous dit le texte, il ne permet pas à la foule de s'approcher de la maison. Le texte nous dit qu'il ne permet qu'à ses trois disciples les plus proches de continuer avec Jairus jusqu'à la maison. Et il arrive et il met tout le monde dehors. Les femmes qui se moquent de lui quand il dit « Elle n'est pas morte, elle ne fait que dormir ». Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le Nouveau Testament, quand on parle de quelqu'un qui, dans ce sens, qui dort, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est décédé, mais c'est un croyant. Toujours. Toujours quand un croyant est décédé, on dit qu'on parle de ceux qui dorment. Okay? Parce que ce n'est pas définitif. C'est une manière de dire que ce n'est pas la seconde mort. Ce n'est pas l'enfer. Une fois à l'enfer, le jugement est déjà fait par Dieu. Dieu ne revient pas sur son jugement. Mais cette fille est croyante. Mais Jésus veut dire plutôt par là que la mort pour moi n'est pas définitive. Les dames qui pleurent se moquent de lui. Il les laisse dehors. Il prend la maman, le papa, Jacques, Pierre et Jean. Et il entre et il ferme la porte. Parce que c'est personnel. C'est une affaire très personnelle. Dans cette chambre, c'est vraiment la réalité de la mort qui pend sur nous. Et Jésus vient vers la fille, elle a 12 ans, c'est une jeune fille, et il ne dit pas « ma fille » comme il avait dit à la femme une demi-heure avant. Parce que c'est leur fille, les parents sont là. Mais il dit « petite fille, Talita, Kumi ». Il dit, Et les évangélistes nous rapportent le mot en araméen. Tellement ils ont été frappés, je ne sais pas pourquoi exactement. Probablement par la manière dont il a dit ça. Juste la manière. Petite fille, lève-toi. Talita Kumi. Et il la prend par la main. Et nous voyons que tout est tellement personnel. Tout est tellement... C'est parce que Jésus se préoccupe d'elle. 12 ans, c'est trop court pour toi. C'est trop court pour n'importe qui. Mais la mort et le péché font leur ravage. Mais je vais montrer pour ceux qui veulent, 12 ans sera trop court. Et même 80 ans, c'est trop court. Parce que je suis celui qui veut allonger à jamais ta vie. Et il lève cette fille. Mais le comble de son amour, ce n'est pas dans ce geste tellement tendre qu'il fait, c'est ce qui arrive après. Je vous lis juste cette dernière partie, je finis mon message. Le texte nous dit, il saisit l'enfant par la main et lui dit « Kalita Kumi », qui se traduit « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Ils en furent hors d'eux-mêmes, écoutez bien, ils en furent, quoi, hors d'eux-mêmes, frappés d'un grand étonnement. Jésus leur fit de vives recommandations afin que personne ne le sache, ne dit rien à personne. Et l'incident se termine comme ceci. Et il leur dit de donner à manger à la jeune fille. Si nous étions là, la scène se termine comme ceci. Ne dites rien à personne. Donne-lui à manger. Maintenant, si vous et moi, on avait inventé cette histoire, si ce n'était pas vrai, l'histoire n'aurait jamais terminé comme ça. Personne n'aurait terminé une histoire comme ça avec cette phrase banale. Comment est-ce que nous aurions terminé ça? Ils étaient hors d'eux-mêmes. Ils étaient dans l'étonnement. Magnifique. Ça finit comme ça, n'est-ce pas? Mais Dieu n'est pas comme les hommes. Ils sont hors d'eux-mêmes du miracle, Jésus n'est pas distrait par son miracle. Il n'est pas préoccupé. Regarde ce que j'ai fait. Oui, allez-y, félicitez-moi. Qu'est-ce qui préoccupe Jésus? Il est le seul à remarquer. Et ça, c'est l'amour. L'amour remarque toujours. Elle n'a pas mangé depuis des jours. Donne-lui à manger. C'est ça qui me préoccupe. Arrêtez de vous étonner. Donne à manger à cette fille. Son amour est incroyable, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il nous connaît, il se préoccupe de nous, il se soucie véritablement de nos vrais soucis, jusqu'au plus banal, jusqu'au plus petit. Il est comme ça. Chez nous, les hommes, si on a beaucoup de puissance, on n'a presque aucune observation des détails, parce qu'on est tellement puissant qu'on est hors de nous-mêmes, au sujet de nous-mêmes, n'est-ce pas? Mais le Seigneur est complètement différent de l'homme, complètement. Est-ce que ce n'est pas d'un tel sauveur que nous avons besoin? Moi, oui. Celui qui peut faire revenir le temps, celui qui est déjà oui, même avant que je vienne consulter. Celui qui est amour personnel, qui me connaît, qui m'embrasse, qui me prend à lui et qui me sauve du début à la fin. Nous allons chanter le carnet numéro 24, c'est toi Jésus.